Bonjour Christophe Diremzian.
Bonjour Julien.
Du football, la fenêtre des éliminatoires du Mondial 2026 refermée. Les internationaux africains sont de retour en club pour la dernière ligne droite des championnats européens.
Et déjà avec réussite pour certains, à l'image du Nigérian Victor Boniface, buteur hier avec le Bayer Leverkusen, vainqueur de Bochum 3-1 lors de la 27e journée de Bundesliga. En Ligue 1, on en est au même stade, 27e journée. Mais là, le Paris Saint-Germain pourrait être sacré dès ce soir si plusieurs conditions sont réunies. Ça dépend notamment du résultat du derby de la Côte d'Azur entre Monaco 3e et Nice 4e. Les Aiglons niçois étaient à la peine sur leurs deux derniers matchs, mais comptent bien se relancer grâce à leur attaquant Evan Guessant. Ça tombe bien, l'Ivoirien revient de sélection tout heureux car il a marqué son premier but avec les éléphants face au Burundi.
Beaucoup de fierté parce que voilà, je l'attendais aussi. Voilà, j'avais envie de faire plaisir à cette équipe nationale, de faire plaisir à ma famille et à moi-même. C'est sûr, j'ai une chose qui a été faite. Il y a encore d'autres objectifs à aller chercher. J'espère les atteindre. Je reviens à un autre match important. Le switch assez vite parce que on sait à quel point ce match est important pour nous dans cette fin de saison. On connaît le contexte, hein. Même nombre de points. On est à peu près à la même position au championnat. Je pense que nos supporters vont être très présents là-bas. Voilà, je ne doute pas de ça, mais j'espère qu'au bout, il y aura la victoire.
Evan Guessant avant Monaco-Nice au stade Louis II à partir de 20h05, temps universel.
Elle est présentée comme l'étoile montante du taekwondo mondial. La jeune Ivoirienne Kimi Lorraine Hossin vient de remporter une compétition du circuit international.
C'était l'Open de Belgique où elle a décroché l'or en plus de 68 kilos. Championne du monde cadette 2022 et troisième des mondiaux juniors l'an passé. Ce jeune talent de bientôt 17 ans s'est lancé sur les traces de sa compatriote et glorieuse aînée Ruth Bagby. Son portrait signé Yoann Gourlet.
Avec son 1m90, ses coups déjà très puissants et ses nombreuses victoires, Kimi Lorraine Hossin ne passe pas inaperçue sur un tatami. Née à Turin en Italie, elle vit avec ses parents ivoiriens dans la ville d'Alessandria et a déjà un palmarès très impressionnant. Depuis 2021, celle qui évolue dans la catégorie des plus de 68 kilos a remporté 17 médailles internationales dont 13 en or. Décrite par certains comme une virtuose du taekwondo, la jeune championne de bientôt 17 ans, interrogée au téléphone, garde pourtant la tête sur les épaules.
Je sais pas si je suis au... je pourrais devenir une championne, mais je suis certaine que je vais tout faire pour m'entraîner pour le devenir. Et je me rappelle que quand j'étais petite, mes entraîneurs me faisaient voir des vidéos de Ruth Bagby et moi je disais toujours que je voulais devenir comme elle.
Ruth Bagby justement est aujourd'hui une proche de la jeune athlète. La double championne du monde et double médaillée de bronze olympique est impressionnée par le potentiel de celle qui pourrait un jour suivre ses traces.
Elle fait des résultats vraiment impressionnants et puis elle a la rage de vaincre. C'est très important de pouvoir aller chercher les victoire. Si elle continue ainsi, elle sera une légende du taekwondo ivoirien.
Kimi Lorraine Hossin est scrutée de près en Côte d'Ivoire. Le taekwondo est le deuxième sport le plus important du pays après le football et son potentiel est tel qu'elle pourrait participer au championnat du monde senior en Chine en octobre prochain et vise déjà les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Yoann Gourlet, Abidjan, RFI.
Lui était l'un des athlètes portés disparus après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le nageur Freddy Mayala est désormais officiellement un réfugié en France. La Cour nationale du droit d'asile a accepté la demande du Congolais de 24 ans qui avait participé aux séries du 50 mètres. Très critique sur ses conditions de préparation au pays avant les JO, il avait décidé de ne pas rentrer à Brazzaville. Il vit depuis plusieurs mois dans la région de Rennes en Bretagne.
Merci Christophe Diremzian, à tout à l'heure. Et bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse internationale est à la une, le tremblement de terre en Birmanie et en Thaïlande.
Les photos d'immeubles effondrés dans un nuage de poussière sont à la une de très nombreux journaux. Un violent séisme frappe la Birmanie. Selon les experts, il pourrait y avoir plusieurs dizaines de milliers de morts, annonce le New York Times. Alors que le Guardian à Londres a recueilli le témoignage d'un habitant de Mandalay qui raconte « Un hôpital s'est effondré sous mes yeux comme une gaufrette qui s'effrite dans un gros nuage de poussière, comme dans les films. » Le principal journal thaïlandais, le Thai Rat, souligne que la Chine et la Russie sont unis pour envoyer de l'aide à la Birmanie. À Pékin, le Global Times publie la photo de secouristes casqués et en combinaison rouge, la première équipe de secours internationale arrivée en Birmanie, selon le journal. La presse russe se fait aussi l'écho de la catastrophe. Le quotidien Moskovski, comme Somolets, a interrogé un expatrié russe vivant en Birmanie, selon lequel les moines bouddhistes interpréteront la destruction des temples comme un signe. Les moines favorables au gouvernement diront que c'est un signe pour mettre fin à la guerre civile et entamer des négociations, estime cet expatrié qui ajoute « L'opposition et les moines personnes qui la soutiennent diront, eux, que c'est une punition pour le gouvernement.
À la une également, Catherine, le voyage de J.D. Vance au Groenland.
Le vice-président américain, accompagné de son épouse, pose pour la photo devant une étendue de neige immaculée. À Londres, le Times rapporte les propos de J.D. Vance déclarant que les États-Unis n'ont pas l'intention de prendre le contrôle du Groenland par la force. Nous pensons que les Groenlandais choisiront par l'autodétermination de devenir indépendants du Danemark, ajoute le vice-président américain. Ensuite, nous discuterons avec le peuple groenlandais. Le Süddeutsche Zeitung note de son côté que les soldats américains ont spontanément crié USA, USA, USA lorsque J.D. Vance est arrivé devant eux à la base américaine de Pitufik. Le quotidien allemand signale également les propos tenus hier par Donald Trump. Nous devons avoir le Groenland pour la sécurité internationale. La question n'est pas de savoir si nous pouvons nous en passer, nous ne pouvons pas, assurer le président américain.
Donald Trump, dont il est aussi question dans le journal Le Monde, sur une toute autre question.
Au Sénégal, après la suspension de l'aide américaine, l'angoisse des malades, titre le quotidien français dont l'envoyé spécial a interrogé Koudiasso, médecin anthropologue au centre de recherche et de formation à Dakar. Elle tente, depuis l'annonce du gel de l'aide américaine par Donald Trump le 20 janvier, de rassurer les bénéficiaires d'un accès gratuit aux antirétroviraux, explique Le Monde. Il me demande, témoigne Koudiasso, si les médicaments resteront gratuits. Leur angoisse, c'est de perdre la vie stable qu'ils ont réussi à bâtir grâce à ces traitements. Également interrogée Souka Ndiaye, présidente du réseau national des personnes vivant avec le VIH-Sida, elle-même contaminée il y a 20 ans, elle craint une régression sans précédent dans le combat contre la maladie. Le ministre de la Santé, ajoute-t-elle, n'a pas dit ce qu'il entendait mettre en place. Or, nos stocks de médicaments ne peuvent tenir que quelques mois. J'ai peur pour ma vie et ma santé.
Enfin, Catherine, une autre question dans laquelle Donald Trump est également impliqué.
C'est Die Welt qui s'en fait l'écho. Grâce à Donald Trump et à deux investisseurs d'origine allemande, l'idée d'un méga événement sportif où le dopage est explicitement autorisé fait son chemin. Les participants voudront battre des records du monde et gagner des millions. En quelque sorte, les jeux du dopage, ironise le quotidien allemand. Les premiers Jeux olympiques sous stéroïdes, précise Die Welt, pourraient avoir lieu dès l'année prochaine aux États-Unis.
Et ça promet. Merci Catherine Potet, à tout à l'heure. Bonjour Jean-Baptiste Placa.
Bonjour Julien Coquel-Rohem.
De retour d'une tournée dans la région des Grands Lacs, le docteur Ronnie Jackson a dressé pour le Congrès américain dont il est membre un état des lieux d'une très grande sévérité sur l'est de la République démocratique du Congo, avec des propositions qui pourraient paraître discutables, sinon controversées aux yeux de certains. Les constats de cet élu républicain ne reflètent-ils pas, malgré tout, quelques vérités à prendre en compte ?
Il serait difficile de lui donner tort lorsqu'il dépeint l'Est de la RDC comme la caricature du Far West, avec toute la charge que porte dans l'imaginaire collectif cette métonymie. Au XIXe siècle, le Far West américain se distinguait en effet par la loi du plus fort et plus personne n'y reconnaissait les règles communes. Et il a raison d'insister sur l'incapacité du gouvernement de Kinshasa à contrôler la région par manque de ressources. On a du mal à le contredire, même lorsqu'il pointe du doigt la corruption, l'enrichissement de certains membres du gouvernement et de leurs familles, pendant que la population survit péniblement. Quant à la responsabilité des pays voisins, Ouganda, Rwanda et Burundi, elle n'est pas contestable. Il les accuse, doux euphémisme, d'importer des minerais de l'est du Congo. Certaines de ses propositions sont par contre déroutantes. D'aucuns pourraient lui reprocher de reprendre à son compte l'argumentation des soutiens de la rébellion quand il explique leur guerre par ce qu'ils considèrent comme un déficit d'inclusion par rapport à la citoyenneté congolaise des communautés rwandophones auxquels sont d'ordinaire associés les rebelles du M23. Et l'idée d'intégrer les rebelles à l'armée nationale pourrait choquer au regard de ce qui a déjà été fait dans ce sens en vain.
Pourquoi alors donner une telle importance à ces propositions ?
Parce que Ronnie Jackson passe pour être très proche de Donald Trump et sa perception pourrait s'imposer comme la politique congolaise des États-Unis. D'autant que sa vision et son insistance sur les difficultés pour les entreprises américaines qui voudraient s'implanter en RDC semblent conditionnées par cette forme d'avidité qui règne à Washington pour certains minerais stratégiques. comme si l'essentiel au fond était de reproduire en RDC ce que les États-Unis tentent d'obtenir avec l'Ukraine en échange de la paix. À ce prix, les rapports de son pays avec la RDC pourraient déboucher sur ce que l'on qualifiait jadis de pacte colonial et qui consistait pour les nations colonisées à alimenter en matière première les industries de la métropole. Ce serait inquiétant car cette répartition du travail fige les pays africains dans le sous-développement comme dans un piège sans fin. Mais s'il y a faute, elle incombe d'abord aux Africains eux-mêmes qui oublient de s'industrialiser, se contentant d'engranger les royalties pour fournir aux autres de quoi faire tourner leurs industries. Imaginez qu'un coffret d'un kilogramme de chocolat chez un des meilleurs chocolatiers mondiaux peut coûter en Occident jusqu'à 64 fois le prix du kilogramme de fèves de cacao payé aux producteurs africains. L'on retrouve plus ou moins la même échelle de déséquilibre pour tout ce qu'exporte brut l'Afrique. Café, coton, karité, bois, etc. La Chine doit largement sa richesse actuelle à la transformation des matières premières qu'elle importe d'Afrique.
Mais Jean-Baptiste, alors pourquoi l'Afrique se cantonne-t-elle dans ce rôle de fournisseur de matières premières pour enrichir les industries partout dans le monde ?
Déficit de leadership et d'audace. Les rares nations africaines qui s'en sortent sont celles qui savent prendre leur part dans la transformation de leurs matières premières. Si la RDC regorge de minerais essentiels pour les batteries d'ordinateurs, téléphones portables et autres véhicules non polluants, pourquoi donc n'exigerait-elle pas qu'au moins une des premières transformations nécessaires se fasse sur son sol ? C'est ce que font par exemple les Botswanais avec le diamant. Anvers, en Belgique, demeure certes la ville la plus prestigieuse du monde pour ce qui est de la taille du diamant. Mais sur ce marché, Gaborone, capitale du Botswana, où se situe la plus grande mine de diamants à ciel ouvert au monde, est loin d'être négligeable. Ainsi, grâce au leadership visionnaire de ses dirigeants, ce pays abrite les implantations de prestigieuses entreprises internationales, Hyundai, Saab Miller, Daewoo, Volvo, Siemens. Que tombe la pluie, dit la devise du Botswana. Mais pour qu'elle tombe effectivement, les Africains devraient s'interroger, se remettre en cause, plutôt que de compter sur la bonté de ceux qui prospèrent sur leur indolence.
Merci Jean-Baptiste Placard. Et bientôt 6h en temps universel sur la radio du monde avant le journal. Un peu de musique avec le duo congolais Tchégué, la chanteuse Fatissi Savanet et le percussionniste Nicolas Dakuna. Ils sortent un nouveau titre, Sing My Song, et c'est dans la sélection du mois d'RFI.
Bota, bota, sota, 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 sota
Chege et le titre Sing My Song. Et vous retrouvez la sélection du mois d'RFI sur musique.rfi.fr. Bientôt 7h à Paris. Le journal dans une minute sur RFI. À tout de suite.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Ce chef d'entreprise a traversé toute l'histoire récente de la RDC, dont il dirige l'un des plus grands groupes privés. Le Belge Georges-Arthur Forest, 85 ans, pense que l'Afrique peut nourrir le monde. Le vice-roi du Katanga, tel qu'il est surnommé, est notre invité exceptionnel.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Le festival Quai du Polar revient du 4 au 6 avril à Lyon. Au programme, conférences, rencontres, dédicaces, films et animations, le Polar sera à l'honneur sous toutes ses formes avec 125 auteurs et autrices invités. Parmi les invités, James Ellroy, Franck Tillier, Paula Hawkins, Sandrine Collette, Maïlys de Kerangal et tant d'autres sont à Quai du Polar du 4 au 6 avril à Lyon. Plus d'informations sur quaidupolar.com en partenariat avec RFI.